Merci Anissa Dadi. Tiens, que lit-on dans la presse ce matin? Eh bien que la Croix-Rouge française vous conseille à tous de préparer votre sac d'urgence à la maison. Et oui, pour être prêt à partir très vite en cas de catastrophe climatique. Elles vont se multiplier, rappelle la Croix-Rouge. On va en parler dans le pressing à 6h10, ce sera juste après les infos. Europe 1, bonjour et bon réveil, voici votre journal. Il est 6h sur Europe 1.
Europe 1, bonjour.
5h-7h.
Alexandre Lemaire, Omblin Roche.
À la une ce matin, faire du profit avec la GPA, c'est du trafic d'êtres humains, considère le Parlement européen. C'est un vote qui ouvre la voie désormais à des sanctions pénales contre certaines pratiques de mères porteuses. Dans l'actualité également, faut-il, oui ou non, expulser des migrants illégaux vers un pays tiers? C'est ce qu'a décidé le Royaume-Uni avec le Rwanda. Deux tiers des Français souhaiteraient la même chose en France. Résultat d'un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD qu'on va vous détailler. Et puis, Joe Biden veut rattraper le temps perdu. La Maison-Blanche assure que des armes américaines vont bien prendre la route de l'Ukraine dans les toutes prochaines heures. Le journal de 6h, Victor Pourchet. Bonjour Victor.
Bonjour Alexandre et bonjour à tous. Dans la directive votée par les eurodéputés, la commercialisation de la gestation pour autrui rejoint le mariage forcé et l'adoption illégale au rang de trafic d'êtres humains. Avec les sanctions pénales que cela pourrait impliquer, annonce qui intervient au lendemain d'une polémique. Marion Maréchal, accusée d'homophobie par la majorité pour avoir critiqué la GPA dont un célèbre couturier français a bénéficié. La tête de liste de reconquête aux européennes persiste et signe.
Jamais je n'accepterai qu'on banalise le fait de louer le ventre d'une femme pour une grossesse. Je ne suis pas un produit à louer, mon utérus n'est pas un produit à louer, les enfants ne sont pas des biens de consommation, ce ne sont pas des biens à vendre qui peuvent faire l'objet d'un contrat. Dans les contrats de mère porteuse dans un certain nombre de pays étrangers, vous avez par exemple des garanties de 2 ans. Ça veut dire que on pose une garantie sur l'enfant, s'il décède, y compris pour des raisons domestiques ou un accident de voiture 2 ans après le contrat, on vous le remplace. Je ne m'habitue pas à la banalisation de cette pratique qui, je le dis, le plus franchement possible, est pour moi monstrueuse et honteuse.
La tête de liste de reconquête aux européennes, Marion Maréchal, c'était hier soir sur CNews. Dans l'actualité également, il voulait mourir en martyr pour l'État islamique. Un adolescent de Haute-Savoie a été placé en garde à vue hier. Âgé de 16 ans, il cherchait à se procurer des éléments pour fabriquer une ceinture explosive et commettre un attentat pendant les Jeux Olympiques. Il était suivi par les renseignements pour sa radicalisation. Le parquet antiterroriste a ouvert une enquête. Des dizaines de milliers de voyageurs, peut-être vous d'ailleurs, dans le flou aujourd'hui. Le principal syndicat de contrôleurs aériens a bien levé son préavis de grève hier, mais c'était trop tard pour que les vols annulés par l'aviation civile ne puissent décoller. Les 3/4 au départ d'Orly sont cloués au sol, les 2/3 à Marseille, plus de la moitié à Roissy et 45% un peu partout en France.
Europe 1, 6h03, Kenji Girac maintient sa version, Victor, devant les enquêteurs.
Le chanteur toujours hospitalisé à Bordeaux après avoir été blessé par balle au thorax dans un camp de gens du voyage, c'était à Biscarrosse dans les Landes lundi, et Stéphane Place, Kenji Girac reste sur sa ligne. Pour lui, c'est un accident.
Près de 3 heures d'audition ici à l'hôpital Olévêque, où les gendarmes ont pu interroger hier après-midi le chanteur après avoir obtenu le feu vert des médecins. De sources proches de l'enquête, Kenji Girac, blessé au thorax, explique et répète qu'il a lui-même commis une erreur de manipulation de cette arme, provoquant un coup de feu accidentel. Le projectile est venu le frapper en pleine poitrine pour ressortir dans le dos et selon les premières constatations, la balle aurait effectivement été tirée depuis l'intérieur de la caravane où se trouvait l'artiste. Tout l'enjeu des investigations étant de s'assurer que les déclarations du chanteur colle avec les nombreux témoignages recueillis, dont celui de sa compagne, et avec les conclusions des analyses de police technique et scientifique, notamment l'examen déterminant du Colt 45 qui avait finalement été retrouvé dans un buisson dans la journée de lundi, sur indication de membres de la famille de Kenji Girac. On devrait en savoir davantage sur le déroulement exact des faits cet après-midi, puisque le procureur de Mont-de-Marsan tiendra une conférence de presse sur cette affaire. Bordeaux, Stéphane Place, Europe 1.
Et j'ajoute que des sources proches du dossier précisent que le chanteur Kenji Benji Girac était très alcoolisé au moment de sa prise en charge par les secours. À Montpellier, deux nouveaux mineurs mis en examen pour tentative de meurtre dans l'affaire Samara. Ils sont suspectés, comme trois autres déjà poursuivis, d'être à l'origine du passage à tabac de l'adolescente à la sortie de son collège. En conséquence, le rectorat interdit aussi l'accès à l'établissement pour ces deux nouveaux mis en cause. La politique, et on l'appelle Sorbonne 2. C'est le grand discours que prononcera Emmanuel Macron aujourd'hui dans le grand amphithéâtre de l'université parisienne, comme le premier en 2017. Il sera largement consacré à l'Europe, en pleine campagne justement des européennes.
Les instances européennes qui sont vent debout contre la loi anti-migrants au Royaume-Uni.
La loi votée par les parlementaires britanniques autorise l'expulsion des étrangers en situation irrégulière vers le Rwanda. Et en échange, Kigali recevra d'énormes compensations financières. Le Conseil de l'Europe s'insurge. Et vous ? Eh bien, selon un sondage CSA exclusif pour Europe 1, CNews et le Journal du Dimanche, vous êtes au contraire deux tiers à vouloir la même chose. Le détail avec Alexis de La Fontaine.
Expulser les migrants illégaux vers un pays tiers, c'est une mesure largement soutenue par les Français. 9 sympathisants de droite sur 10 y sont favorables, un chiffre qui grimpe jusqu'à 94% au Rassemblement National. Chez les soutiens d'Emmanuel Macron, ils sont deux tiers à réclamer cette solution d'urgence pour stopper l'immigration illégale. Même au sein de la gauche la plus radicale, cette idée recueille 45% d'approbation, alors que la France Insoumise et autres ont toujours milité pour l'ouverture des frontières. La preuve qu'une large majorité de la population souhaite désormais des décisions fortes pour faire face aux vagues migratoires à répétition. Par ailleurs, les résultats laissent apparaître un léger décalage générationnel. Plus les personnes sont âgées, plus elles soutiennent le renvoi des migrants illégaux.
Alexis de La Fontaine du service politique d'Europe 1. À l'étranger, la frontière entre Israël et le Liban sur le point de s'embraser. Tel Aviv dit avoir lancé hier une offensive sur 40 positions du Hezbollah libanais, l'allié du Hamas palestinien. Position pilonnée par l'aviation et l'artillerie israélienne, mais aucun soldat de l'armée israélienne n'a franchi la frontière, assurait hier soir les troupes des Nations Unies déployées dans la zone.
Tandis que pour l'Ukraine, l'aide militaire américaine va se mettre en route dans les toutes prochaines heures, Victor.
C'est ce qu'annonce Joe Biden après l'approbation définitive par le Congrès américain de cette aide à Kiev. 61 milliards de dollars discutés, débattus durant des mois aux États-Unis. Un retard que le président américain veut combler.
Nous devons aller vite. Je me suis assuré que les envois commenceraient immédiatement. Dans les toutes prochaines heures, nous commencerons à envoyer de l'équipement à l'Ukraine pour sa défense aérienne, des munitions pour son artillerie, son système de missiles et des véhicules blindés. Vous savez, cette aide est un investissement, non seulement dans la sécurité de l'Ukraine, mais dans la sécurité de toute l'Europe. Et c'est un investissement dans notre propre sécurité. Quand nos alliés sont plus forts, nous sommes plus forts. L'Amérique se tient aux côtés de ses amis contre les dictateurs. Nous ne nous inclinons devant personne, et certainement pas devant Vladimir Poutine.
Le président américain Joe Biden, c'était hier soir.
Un mot de sport à 6h07 sur Europe 1, Victor, avec du foot. Le Paris Saint-Germain va devoir encore attendre un peu avant de fêter son titre de champion de France.
Et oui, un titre pas encore acquis. Les Parisiens ont fait le travail, ça oui, en gagnant contre Lorient 4-1. Mais Monaco, le deuxième, a battu Lille 1-0 de son côté. Alors, une victoire du Paris Saint-Germain ce week-end. Et cette fois-ci, ce sera bon pour le titre. Et puis, pour les boulangers parisiens en revanche, tout se passe aujourd'hui, c'est le grand prix de la meilleure baguette de la ville de Paris. Critères très précis, cuisson, goût, la mie, l'alvéolage, l'aspect également. Le cahier des charges aussi ne laisse pas de place au hasard. 50 à 55 cm de long, 250 à 270 grammes.
C'était très précis. Hein.
Très précis, encore plus précis. 16,8 grammes de sel par kilo de farine. Pas
ah oui,
plus,
effectivement,
pas moins.
Au pèse-lettre.
Il y a quand même du beau, de la belle récompense parce qu'il y a déjà 40 000 euros pour la boulangerie qui gagnera ce concours et surtout le droit de fournir l'Elysée en pain pendant un an.
Bon, on va s'intéresser au gagnant et à l'adresse.
Ah, j'irai direct après.
Direct,
moi,
ça je vous fais confiance. Merci Victor pour ça me donne faim tout ça. Merci Victor Pourchier, bienvenue sur Europe 1, il est 6h08.
Europe 1, bonjour, bon réveil. À suivre le pressing, la revue de presse décalée et on célèbre les 75 ans de Paris Match, numéro spécial anniversaire aujourd'hui avec la troupe du Splendide en une.
A tout de suite sur Europe 1.
5h, 7h.
Europe 1, bonjour.
Tout à l'heure à 6h50, retrouvez la revue de presse internationale avec Valtus, leader européen du management de transition. Valtus, c'est déjà plus de 3500 missions de management de transition réalisées dans 50 pays.
Pierre-Henri de Menton, directeur de la rédaction de Challenge.
Dans Challenge, un grand dossier sur le cauchemar des droits de succession, un impôt qui rapporte beaucoup plus qu'ailleurs et que les Français détestent. Dans Challenge, les barèmes et les solutions pour réduire l'impôt et aussi les incroyables batailles autour des testaments. À retrouver cette semaine dans Challenge.
C'est si bon.
Charolaise.
Parthenaise.
À l'orléanaise.
À la bolognaise.
À la lyonnaise.
À la mayonnaise.
À la nivernaise.
À la landaise.
À la bordelaise.
À la rochelaise.
À la marseillaise.
À la basquaise.
À la piémontaise.
À la castraise.
Façon Thérèse.
À la française.
Chaud comme la braise.
Chez nous, le bœuf. C'est si bon. Il y en a pour toutes les bouches. Oui.
Bonjour Anne, vous êtes aidante.
Oui, depuis 2 ans, maman est seule et je passe la voir tous les jours pour l'aider et qu'elle puisse rester chez elle.
Parlez-moi d'Intégrance.
Intégrance, c'est la mutuelle de maman et c'est aussi la mutuelle qui prend soin de moi. Entre maman, les enfants, mon travail, ça devient compliqué pour moi. Intégrance nous propose des solutions, ça nous aide beaucoup toutes les deux.
Comme Anne, presque 1 salarié sur 4 aide un de ses proches et s'expose à un épuisement physique et psychologique. Aidant, senior ou employeur, faites-vous aider. Rendez-vous sur intégrance.fr.
Europe 1, bonjour, 5h-7h.
Alexandre Lemaire, Omblin Roche.
Nous sommes jeudi matin, merci d'avoir choisi Europe 1 et votre pressing. Dès à présent à 6h10, c'est votre revue de presse décalée comme chaque matin dans Europe 1. Bonjour avec Dimitri Vernet. Bonjour Dimitri.
Bonjour Alexandre, bonjour Omblin.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Qu'avez-vous lu dans les journaux ?
Paris Match fête ses 75 ans avec la sortie aujourd'hui d'un numéro anniversaire. On va le survoler ensemble.
On va commencer à souffler les bougies avec vous aussi.
Dans un instant, Dimitri, Omblin.
Madonna qui arrive à ses concerts à l'heure où ils auraient dû se terminer. Des retards qui débouchent sur des plaintes de fans.
Les mauvais coups de la météo qui se succèdent. Voilà aussi ce dont parlent vos journaux ce matin. Alors, dernier en date, vous le savez, hein, le yo-yo du thermomètre qui fait craindre pour les récoltes de fruits et des vignes. Je lis ce matin dans le Figaro que pour faire face à la multiplication attendue des catastrophes climatiques, la Croix-Rouge suggère à tous les Français, à vous tous, de préparer votre sac d'urgence.
Un sac d'urgence.
Mais oui.
C'est quoi ? C'est un sac de survie.
Eh ben, c'est exactement
c'est
ça. C'est un rapport qui est publié aujourd'hui pour mieux se préparer en fait à notre futur proche. La Croix-Rouge française conseille de garder ce sac en permanence à portée de main. Tout ça pour être prêt en fait à abandonner votre maison en toute urgence.
D'accord,
si la situation se présente en cas de catastrophe climatique, donc je sais pas, l'arrivée d'une tempête dévastatrice, d'un incendie, d'inondation, de canicule.
Bon, d'accord, mais qu'est-ce qu'on est censé mettre dans ce sac d'urgence
très exactement. Vous allez voir, c'est très détaillé. C'est une trousse de premiers secours et des médicaments à laquelle vous devez d'abord penser. Mm-hmm. Vous mettez ça dans votre sac.
Oui.
Vous mettez aussi des vêtements chauds. N'oubliez pas de l'eau potable, bien sûr, de la nourriture non périssable, une lampe de poche avec des piles de rechange, une radio à piles, bien sûr, pour rester informé grâce à Europe 1.
Ça fait une catastrophe ce que
c'est ça. Des objets également pour signaler sa présence. Alors, ça peut être un sifflet, je ne sais pas, ça peut être des bâtons lumineux.
Ah,
La pochette étanche aussi, avec à l'intérieur vos documents, la copie de vos papiers d'identité, vos ordonnances. Vous voyez que c'est très précis. C'est le fruit, tout cela, d'expérience de terrain de la Croix-Rouge. C'est une proposition qui, d'ailleurs, pourrait être retenue par le gouvernement qui prépare toujours, vous le savez, son plan national d'adaptation au réchauffement climatique.
Oui.
Mais vous le disiez, Omblin, ce sac d'urgence, oui, ça fait peur. Eh bien, figurez-vous que c'est fait pour. C'est quasiment ce que nous dit la Croix-Rouge. C'est aussi... Alors, il est vraiment conseillé, la Croix-Rouge le pense vraiment, qu'il est nécessaire de préparer ce sac d'urgence. Mais derrière ça aussi, il y a la nécessité de préparer les esprits en nous disant, bah oui, ce n'est plus une hypothèse, les événements climatiques vont se renforcer, vont s'aggraver, se multiplier dans les années à venir. Donc il faut se préparer.
Soyez prêts, soyez pas démunis quand la catastrophe arrive.
C'est donc dans le Figaro ce matin. Un peu plus léger, Dimitri. On fête un anniversaire aujourd'hui.
Ben oui, les 75 ans du magazine maison Paris Match. À cette occasion, c'est un numéro anniversaire.
Vous avez sorti les cotillons,
Forcément, c'est un magazine maison en plus, forcément. Donc voilà, c'est un numéro anniversaire qui sort ce matin et qui sera disponible en kiosque pendant 3 semaines.
Ah oui, quand même. Un numéro spécial, Dimitri, qui affiche en une la troupe du Splendide.
Ben oui,
pas mal.
Une splendide retrouvaille, 50 ans après. après la création de leur troupe, Match a réussi à réunir la bande de copains préférés des Français. Gérard Jugnot, Marianne Chazelle, Thierry Lhermitte, Josiane Balasco, Christian Clavier. Un entretien exceptionnel sous la plume du journaliste Benjamin Locoche qui l'avoue très difficile pour le photographe de faire tenir en place ces sept comédiens amis qui ne s'étaient pas vus depuis plus de 3 ans.
Bon, 75 ans d'histoire, on parle de Paris Match, hein, extrêmement riche, hein, témoin du siècle.
Bien sûr.
On imagine, oui, je pense qu'il y a un petit vent de nostalgie quand même qui
s'ouvre
dans ce numéro.
Ce numéro 3912, très exactement. Mais il retrace les 75 années du magazine en 220 pages. Alors, il y a beaucoup de clichés historiques, bien évidemment, comme ces photos du tournage d'un film mythique. Le gendarme de Saint-Tropez, accompagné d'un entretien tout aussi exceptionnel, une interview croisée entre Juliette Funès et Sophie Galabru, les deux petites filles des drôles de papy. Donc oui, il y a beaucoup de nostalgie dans ce numéro, mais pas que. Match s'est également projeté vers l'avenir. En témoigne cet éditorial de Philippe Bouvard, titré « Comment vivra-t-on en 2034 ?» Ou encore cet article très audacieux, une
avec un sac d'urgence.
Mais il y a également cet article assez audacieux, je vous le dis, une prédiction. Je vous lis son titre. 2054, Buckingham dans l'œil de Match et de l'intelligence artificielle.
Ah oui, l'IA,
et attention, spoiler, l'IA voit Kate Middleton reine dans 30 ans.
Ça laisse un peu de temps pour y penser, se préparer.
Tout le temps.
Avec un sac d'urgence,
bon, bien évidemment. Voilà tout ça. Bien sûr, c'est à retrouver dans le Paris Match anniversaire du jour.
Disponible
ce matin.
Aujourd'hui, dès maintenant.
Et pendant 3 semaines.
Voilà.
Ce sera 3 semaines en plus.
Les 75 ans de Paris Match, numéro spécial dans vos kiosques. Omblin, qu'avez-vous lu dans les journaux ce matin ?
Eh bien, pour vous comme pour moi, rien ne vaut la musique quand elle est jouée en live. Vous avez déjà ressenti, vous savez, le plaisir intense d'aller voir, écouter un artiste, un groupe
en
sur
concert,
scène, voilà,
évidemment.
De se retrouver au milieu d'une salle entière, les cœurs qui battent à l'unisson et en rythme avec le tempo des chansons. Alors évidemment, il y a toujours des petits aléas.
Ouais.
La foule, la queue avant de pénétrer dans la salle de concert, la première partie qui peut être aussi bien une très bonne surprise qu'un vrai moment de solitude. Et puis, si vous avez choisi d'être dans la fosse, dans le cœur du réacteur, vous attendez que ça commence debout. Cette effervescence, tous les fans américains de Madonna qui s'étaient déplacés dans la capitale de Washington le 18 décembre ont dû la ressentir en arrivant, en attendant deux heures de retard.
Mais c'est la durée du concert, en fait.
Absolument. Elle a commencé au moment où ça devait se terminer.
Au moment où devait se terminer,
exactement. Attitude inqualifiable qui vient de déboucher sur une plainte.
Ah oui, une plainte. Les fans portent plainte contre elle, contre Madonna.
Voilà, et contre son tourneur Live Nation, le pire cauchemar des spectateurs, selon les avocats des plaignants, qui ajoutent forcer les spectateurs à attendre des heures pour son spectacle dans une arène chaude et inconfortable témoigne de l'arrogance de Madonna et de son manque de respect total pour ses fans. La plainte a été déposée le 19 avril.
Mais dites-moi, ça lui arrive souvent comme ça à Madonna? Je ne suis jamais allé à un de ses concerts, hein, mais bon, ça lui arrive souvent d'être en retard à ce point?
Disons que ce n'est pas la première fois.
Ah.
Alors, souvent, je ne sais pas, mais ce n'est pas la première fois. En décembre dernier, toujours aux États-Unis, encore à Brooklyn, là aussi, 2 heures de retard. En 2019, à Las Vegas, son concert avait démarré à minuit. Madonna avait été accueillie par des huées et elle avait lancé à la foule, je vous le donne en mille, une reine n'est jamais en retard.
Non mais elle a vraiment dit ça ?
Une reine n'est jamais en retard. Oui,
puis
à Las Vegas, elle dit c'est la ville du vice, la nuit qui se termine jamais. Vous n'avez pas râlé parce que commence à minuit.
Et de l'écho peut-être.
Mais oui, les stars aiment bien se faire désirer. Elles attendent un petit peu.
2 heures, c'est minutes, c'est sympa. 2 heures, c'est
long. Ça fait mal aux
jambes. On est sur un autre registre.
On pense à ceux qui restent debout. Bon, les retards de Madonna la traînent encore une fois de plus au tribunal. C'est notamment sur le site du Point, lepoint.fr.
Le pressing, c'était votre revue de presse décalée chaque matin sur Europe 1. Merci Omblin, merci Dimitri Vernet.
À demain.
À demain Dimitri. N'oubliez pas qu'Europe 1 vous propose également de redécouvrir les récits extraordinaires de Pierre Bellemare avec un son remasterisé. C'est un podcast inédit réalisé à partir des archives sonores d'Europe 1, Omblin.
Oui, vous êtes nombreux à les écouter. Énorme succès des deux premières saisons avec plus de 3 millions d'écoutes. Vous allez retrouver un nouvel épisode chaque semaine et tous les épisodes sur l'appli Europe 1, europe1.fr et vos plateformes d'écoute. Vous écoutez Europe 1, on se retrouve dans un instant avec la partition de Mike Brandt.
A tout de suite.
Europe 1 bonjour. 5h, 7h.
Alexandre Lemaire, Omblin Roche.
6h18 sur Europe 1, le journal permanent. Victor Pourchet.
Faut-il prendre exemple sur l'accord Royaume-Uni-Rwanda? C'est-à-dire, faut-il une loi en France pour expulser plus efficacement les migrants illégaux vers un pays tiers? Vous dites oui à 67%, c'est le résultat du sondage CSA pour Europe 1, CNews et le journal du dimanche. L'entreprise Duralex a bien été placée hier en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce d'Orléans a ordonné une période d'observation de 6 mois, le temps de trouver un repreneur solide au célèbre Verrier. Et puis c'est une annonce immobilière pas banale. Le Parti Socialiste cherche à louer son siège d'Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne, acquis par le PS en 2018, jugé trop grand en interne aujourd'hui. L'idée serait de revenir au cœur de Paris, 6 ans après la vente de l'historique site de Solferino.
Merci Victor Pourchet. Prochain journal à 6h30 dans une dizaine de minutes sur Europe 1.
Europe 1.
Début de journée à tous. À 6h19, c'est votre partition, Ombine Roche. Alors, il nous a quittés, c'était aussi un 25 avril en 1975, il y a 49 ans. Vous nous faites retrouver ce matin Mike Brandt.
Oui, chanteur à la voix d'or, un charme à revendre, un séducteur maudit. Jamais il n'a caché son ambition. Je serai vedette ou clochard, disait-il. Le succès, les filles, l'hystérie des groupies, la gloire causeront sa perte.
Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit.
Quand il est découvert à Téhéran, hein, en Iran, oui. C'est un petit peu le diamant brut.
Absolument.
Hein,
il est découvert par Sylvie Vartan et son ami et secrétaire de l'époque, le chanteur Carlos. Sylvie Vartan laisse son numéro de téléphone à Mike Brandt au cas où. Le chanteur israélien, qui ne parle pas un mot de français, se décide et tente sa chance.
Bon, il va arriver à Paris à quelle époque?
Au milieu de l'été 1969, 2 mois après cette rencontre décisive avec la chanteuse. C'est le parolier Jean Renard qui prend Mike Brandt sous son aile. Il devient son père spirituel et le fait enregistrer une chanson construite sur mesure. Celle qu'on entend, bien sûr, Laisse-moi oui. t'aimer, avec des paroles écrites en phonétique. 2 ans vont suffire à faire de lui une star. Lorsque l'année 1971 commence, ses disques se vendent par milliers et toutes les femmes sont folles de lui.
Brandt a déjà le public à ses pieds et vous l'avez dit, surtout le public féminin. Il va bénéficier en plus d'un coup de pub supplémentaire.
Absolument, victime d'un accident de voiture en février 71, Mike Brandt est en une de France Soir. Cet événement qui aurait pu être tragique va accroître sa popularité. Jean Renard ajoute des bandages et des tuyaux sur le chanteur allongé dans son lit d'hôpital pour prendre une photo. Il est hilar. Le cliché est envoyé à la presse et tout le monde ne parle plus que de ça.
Ça se passe comment les mois qui suivent justement cet emballement médiatique?
Eh bien, les galas et les émissions télé s'enchaînent. Au printemps, il se rend en Italie, Mike Brandt. Il assiste au festival de musique de San Remo et découvre la chanson Que Sera par le groupe Ricky et Poveri. À son retour, il ne pense plus qu'à cette chanson et souhaite l'adapter.
Et alors, la réponse de Jean Renard?
Ah ben, il refuse. Voilà. Bon, Mike Brandt insiste. Jean Renard finit par accepter, mais le 45 tours est rangé dans un tiroir. Ce désaccord est le signe avant-coureur que la relation entre les deux hommes se détériore peu à peu. Mike Brandt a des envies de liberté, il a besoin de choisir ses chansons, décider où et quand il se produit en public.
À quand perdu, je t'ai demandé de venir avec moi danser.
Elle se termine quand, cette collaboration entre Mike Brandt et Jean Renard?
Eh bien, quand le chanteur émet le souhait d'assurer la première partie du concert de Dalida à l'Olympia contre l'avis de son mentor, la rupture est alors définitive.
Ça se passe quand, le concert?
Un mois plus tard, hein, le 23 novembre 1971. Mike Brandt est plutôt à l'aise hein, ce soir-là, pas vraiment paralysé par le trac lorsqu'il monte sur scène. Mais comme le craignait Jean Renard, sa prestation tourne à la catastrophe. Sans doute à cause de son manque d'expérience. Le chanteur s'attire les foudres des critiques, il est moqué par le public, il mettra 3 mois à s'en remettre et ne chantera plus jamais dans une salle parisienne. Désespéré, c'est ce 45 tours mis de côté qu'il doit son retour en grâce. Le succès est immense avec Qui saura, que voici sur Europe 1. Mike Brandt reprend confiance en lui.
Vous mes amis, tant de fois, vous me dites... Qui saura
en 1972 avec qui sera dans la partition sur Europe 1. Il nous a quitté tragiquement il y a exactement 49 ans.
Vous vous êtes un peu dévoilé, Ombline. J'ai cru comprendre que vous le chantiez très bien, ce titre
le
de My Brandt.
Je le connais un peu, ce morceau.
J'entendrai ça un jour. J'en fais le vœu.
Je connais un peu les paroles.
Merci, Ombline Roche, et bon début de matinée à tous avec Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez jeudi 25 avril.
Europe 1, bonjour, de 5h jusqu'à 7h.
Dans la prochaine demi-heure, Ombline Roche.
À 7h moins le quart, on va retrouver Jean Z avec ses initiatives positives. Ce matin, une entreprise française engagée dans la protection des coraux en Afrique. Et dans 10 minutes, votre interview éco, Alexandre Lemaire.
On va s'intéresser à cette menace sur notre industrie pharmaceutique française. Biogarant, l'un des fleurons du secteur, pourrait bientôt passer sous pavillon indien. Les Républicains écrivent à Emmanuel Macron pour lui en demander d'empêcher cette vente. Ben oui, c'est un mauvais signal alors que le président s'engage à relocaliser au contraire notre production de médicaments. On en parle à 7h20 sur Europe 1 après les infos avec le député LR Yannick Neuder. Dans un instant, la météo d'Anissa Dadi.
5h, 7h.
Europe 1, bonjour.
Bonjour. Vous connaissez le dicton « On n'a jamais deux fois l'occasion de faire une première bonne impression ». Et quand on est pro, la première impression, c'est aussi son véhicule. Alors venez vite découvrir la nouvelle gamme utilitaire Peugeot. Démarquez-vous avec son design distinctif et sa modularité exceptionnelle. Et avec près de 20 systèmes d'aide à la conduite, vous arriverez chez vos clients dans les meilleures conditions pour faire une deuxième bonne impression. Et jusqu'au 30 avril, Peugeot vous offre 3 mois de loyer pour tout achat d'un nouvel utilitaire en crédit bail. C'est le moment d'en profiter.
Voir conditions en point de vente et sur Peugeot.fr.
On sort ce soir ? On pourrait aller au ciné ? Ou aller voir une expo ? Ou un concert ? Ça fait des années qu'on n'en a pas fait. Bon, tu m'écoutes là ?
Hein, pardon, tu disais ? Excuse-moi, j'étais plongée dans une enquête sur le business des grands chefs cuisiniers. C'est incroyable !
Capital, jamais l'économie n'a été aussi captivante. Capital, premier magazine économique vendu en France. Disponible chez tous les marchands de journaux. Hé, tu me le prêtes ?
Chez But, ils ont un secret pour faire la cuisine encore plus facilement. Ah si, si, c'est possible. Vous avez envie de savoir, hein ? Eh bien, tendez l'oreille.
En ce moment, chez But et sur But.fr, jusqu'à moins 30% sur une sélection de cuisine. Plus la pause offerte et des offres de financement incroyables. Mais chut, ça reste entre nous.
Conditions de l'offre en magasin et sur But.fr.
À tous ceux qui, après le repas, se transformaient en artistes avec la cire des Babybel. Je vous présente un cow-boy qui est tout rouge. C'est conceptuel. Papa, regarde, un diplodocus, mais tout rouge. Et un nez de clown. Oui, bah c'est très rouge, quoi, surtout. Chez Intermarché, pour l'achat d'un produit de la marque Babybel, le second est à moins 60%. Et c'est aussi au drive et en livraison.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 28 avril, sur le moins cher des deux, origine France, modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Bonjour à tous, Europe 1, 6h28, le temps pour ce jeudi, Anissa Dadi, fin de l'épisode de gel,
oui,
en tout cas pour l'instant.
Ça c'est la bonne nouvelle, on va vers le redoux doucement, puisque ce week-end on va se diriger vers un week-end bien plus doux, bien moins froid, mais beaucoup plus pluvieux, puisqu'on a de gros orages qui arrivent à partir de demain vendredi et tout au long du week-end, ça va être très agité ce week-end, hein. Il y aura avec des risques d'inondation, j'aurai l'occasion de vous en reparler, on va suivre ça de près. Alors aujourd'hui c'est vrai qu'on a 0 degré à Besançon, 1 degré à 3, les gelées sont vraiment très discrètes par rapport à ces derniers jours. 3 à Aurillac, Saint-Étienne et Lille, 6 degrés à Paris, 12 à Bastia. Cet après-midi, plus de 10 degrés partout, ça fait plaisir aussi. 10 degrés à Belfort, 11 à Nancy. Alors même si je vous parle de redoux, on est encore en dessous des moyennes
encore
de saison.
En dessous, hein,
5
sûr,
à 6
oui.
degrés en dessous des moyennes de saison. 14 à Paris, Rennes et Clermont-Ferrand, 16 degrés à Nice et Marseille et 19 à Nîmes, c'est la maximale. Aucune température au-dessus des 20 degrés pour la saison, pour un 25 avril, c'est assez rare. Alors dans le ciel, eh bien le redoux se fait avec le retour des pluies. On a des perturbations qui vont du sud-ouest jusqu'à l'Auvergne. On a un gros quart sud-ouest qui est très arrosé aujourd'hui. L'Occitanie est concernée par ces averses très fréquentes. Le nord-est est également bien arrosé. On a de la neige sur le Massif central, de la neige sur les Vosges. Ailleurs, on a un ciel partagé entre nuages et éclaircies, sauf au bord de la Méditerranée où c'est ensoleillé. Mais il y aura encore une fois aujourd'hui beaucoup de vent.
Merci Anissa Dadi. Bon réveil à tous avec Europe 1, 6h30.
Europe 1, bonjour.
5h-7h.
Alexandre Lemaire, Ombline Roche.
L'exploitation de la gestation pour autrui, la GPA, est désormais un crime. C'est ce qu'a voté hier le Parlement européen, qui l'inscrit dans la liste des traites d'êtres humains. On va tout vous expliquer dans ce journal. La Sorbonne, acte 2 pour Emmanuel Macron aujourd'hui. Comme il y a 7 ans, le chef de l'État va prononcer un discours sur l'Europe, l'occasion surtout de soutenir sa tête de liste en difficulté, Valérie Ayé. À Rennes, les agents municipaux doivent montrer patte blanche pour travailler, contrôler chaque jour. par des dealers. Les syndicats dénoncent une dérive mafieuse, ils préparent une grève. Et puis 13 ans après sa mort, Amy Winehouse au cinéma, un biopic lui est consacré, une BD aussi qu'Europe 1 vous fait découvrir ce matin. Le journal de 6h30. Fanny Marceau, bonjour Fanny.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. C'est désormais un crime à l'échelle européenne. L'exploitation de la GPA, la gestation pour autrui, fait depuis mardi partie des pratiques reconnues comme traite d'êtres humains, au même titre que le mariage forcé ou l'adoption illégale. Laura Van Lerberg, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Qu'est-ce que ça signifie exactement pour la GPA ?
Eh bien, l'exploitation de gestation pour autrui est désormais reconnue comme un crime au niveau de l'Union européenne, au même titre que l'esclavage ou la prostitution forcée, c'est-à-dire un crime grave et de dimension transfrontalière. La directive cible en particulier les personnes qui forcent les femmes à être mères porteuses ou qui les amènent à le devenir par la ruse. Concrètement, des sanctions seront prévues, notamment pour les entreprises qui tirent profit de cette pratique et qui sont donc reconnues coupables de ce trafic. Les États membres seront tenus de respecter l'objectif fixé par la directive, mais ils pourront choisir les moyens d'y parvenir. Cette nouvelle disposition entrera en vigueur 20 jours après sa publication au journal officiel de l'Union européenne. Les pays disposeront de 2 ans pour la mettre en œuvre.
Laura Van Lerberg.
7 ans à nous battre pour notre Europe.
Mais l'Europe, c'est nous. C'est nous qui l'avons faite et qui l'avons choisie. C'est nous qui l'avons construite.
Le clip du président de la République publié hier sur son compte X, alors qu'il tient ce matin à 11h un discours sur l'Europe à la Sorbonne. Objectif officiel, dresser le bilan de ces 7 dernières années, préparer le prochain agenda stratégique de l'UE. Mais Alexandre Chauveau, en pleine campagne des européennes, Emmanuel Macron cherche surtout à relancer la candidature de la tête de liste Renaissance, Valérie Ayé, distancée dans les sondages.
Emmanuel Macron en est convaincu, lui seul peut inverser la tendance. La candidature de Valérie Ayé ne décolle pas, alors le chef de l'État convoque l'agenda stratégique de l'Union pour rentrer en campagne. 5 ans après avoir volé au secours d'une Nathalie Loiseau déjà en difficulté, Emmanuel Macron entend rééditer l'exploit. Plusieurs ministres y voient le vrai point de départ de la campagne. Le programme de Valérie Ayé devrait d'ailleurs rapidement suivre, tout comme la composition de la liste, toujours inconnue à ce stade. Mais la tâche d'Emmanuel Macron apparaît cette fois moins aisée. La faute à l'usure du pouvoir après 7 ans passés à l'Élysée. Il donne moins envie qu'avant, constate une députée Renaissance sur les marchés. Les Français ont un rapport plus critique que nous à l'Europe, ajoute-t-elle, en citant notamment l'incompréhension suscitée par le prix de l'électricité fixé par le marché européen de l'énergie. Confronté aux dynamiques de Jordan Bardella et de Raphaël Glucksmann, Emmanuel Macron compte donc peser de tout son poids pour tenter de sauver le résultat d'une élection qui déterminera le paysage politique jusqu'à la fin de son quinquennat.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.
Nouveau rebondissement dans l'affaire Fillon.
Oui, 7 ans après le début de son feuilleton judiciaire, la Cour de cassation a validé hier la condamnation de l'ancien Premier ministre, mais elle ordonne un nouveau procès afin de réévaluer les peines prononcées et les dommages et intérêts à verser. L'actualité à l'étranger, ce sont ces 3 interpellations au Royaume-Uni, des hommes âgés de 19 à 22 ans soupçonnés d'être impliqués dans la mort de 5 personnes lors d'un naufrage dans la Manche en début de semaine, des personnes qui tentaient de rallier Calais, de rallier le Royaume-Uni depuis la France. Le Royaume-Uni où les migrants entrés illégalement sur le territoire pourront désormais être expulsés vers le Rwanda. Faut-il une mesure similaire pour les migrants entrés illégalement sur le territoire français ? 67% des Français disent oui, selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD ce matin.
Il est 6h34 sur Europe 1, alors que les opérations PlaceNet XXL se multiplient sur notre territoire. On vous parle ce matin du calvaire quotidien des agents municipaux de la ville de Rennes.
Des jardiniers, des responsables de la propreté des espaces publics, tous agressés à plusieurs reprises par des trafiquants de drogue dans les quartiers sud de la ville. Impossible de travailler sereinement. Des agents territoriaux soutenus par leurs 7000 collègues de la métropole rennaise qui appellent à un débrayage la semaine prochaine. Et en attendant, ce soir, ils vont être reçu par la direction pour tenter de trouver des solutions. Reportage de la correspondante d'Europe 1 à Rennes, Sandrine Prioul.
On est victime de cette dérive mafieuse.
Il y a peu, les agents de propreté, les jardiniers, cohabitaient encore avec les dealers locaux, explique Stéphane Morando pour Sud Solidaire. Mais aujourd'hui, ils ne sont même plus sûrs d'exercer leur mission de service public sans danger.
Les points de deal sont à la prise de Parisiens et de groupes marseillais, ce qui crée toute une tension aussi. Il suffit d'un coup de débroussailleuse près d'un arbuste ou autre où étaient cachés des stupéfiants. Si ceux-là ont été abîmés, ils vont venir filmer les agents et diffuser sur différents réseaux sociaux. Voilà, ça devient craignose. Des munitions ont été retrouvées, des armes, etc.
Pour la CGT, Laurent Quéron demande donc à sa direction de prendre conscience de l'urgence.
Les agents sont là pour travailler au mieux. Ils ont été souvent considérés en première ligne lors de la pandémie, mais là, ils sont en première ligne aussi de cette fracture sociale, parce que bon, on n'en sort pas. Et de cette dérive de trafic, voilà, c'est un autre monde.
Une prime d'attractivité, mais surtout le moyen de travailler en binôme. Il en va là de la sécurité des agents, affirment ces délégués du personnel.
Sandrine Prioul. Le syndicat majoritaire des contrôleurs aériens a bien retiré son préavis de grève, mais trop tard, les conséquences vont tout de même se faire sentir. Aujourd'hui, 75% des vols supprimés à Orly, 55% à Roissy et de nombreux aéroports régionaux impactés.
Europe 1, 6h36, vous avez certainement croisé l'affiche du film, le biopic d'Amy Winehouse, c'est depuis hier au cinéma.
Mais si vous êtes plus lecture que salles obscures, l'histoire de la sulfureuse chanteuse britannique existe aussi en bande dessinée, éditée chez Petit à Petit, Sébastien Bordenave.
15 dessinateurs et trices ont œuvré sur cette BD qui s'appelle sobrement Amy Winehouse, et de la sobriété, il y en aura très peu dans cet album dont on connaît douloureusement la fin. Mais on apprend beaucoup, par exemple, l'amour d'Amy pour sa mamie Cynthia, ancienne chanteuse de jazz sur laquelle Glenn Miller a eu des vues, les cheveux de jet, le regard frondeur, les tatouages 50s et la choucroute capillaire, c'est elle l'inspiration. La BD décrit aussi parfaitement le drame crescendo que fut la vie d'Amy, l'eyeliner grossissant au fur et à mesure que sa silhouette maigrissait pour les tristes raisons que l'on sait. Mitch Winehouse, le père absent, résume en déclarant « Le meilleur album du 21e siècle, Back to Black, parle du pire salaud que la Terre ait porté. Il parle de celui qui a entraîné Amy aux enfers, celui qui faisait passer de la drogue dans ses peluches quand elle était en cure de désintox. La BD Amy Winehouse nous fait totalement regretter la disparition de cette étoile foudroyante de la soul, en espérant qu'elle ait, en juillet 2011, refermé derrière elle la porte du club des 27. »
L'ami Sébastien Bordenave sur Amy Winehouse en BD, édité donc chez Petit à Petit, dessiné par une quinzaine de dessinateurs, avec également de nombreux documents qui combleront les passionnés. Si vous êtes curieux, c'est le moment.
La bande dessinée, le film, ça laisse du choix effectivement à tous les fans, et ils sont nombreux. Merci Fanny Marceau. 6h37, bon réveil avec Europe 1.
À 7h15, vous allez retrouver Jean Z et ses initiatives positives ce matin. Une entreprise engagée dans la préservation et la restauration des récifs coralliens en Afrique. Dans un instant, votre interview écho, Alexandre Lemaire.
Les laboratoires français Biogarant, champion du médicament générique, pourraient bientôt être vendus à un groupe étranger. Quel risque pour notre industrie pharmaceutique, pour les pénuries en pharmacie? Les Républicains mettent en garde Emmanuel Macron dans une lettre. On accueille dans un instant le député LR Yannick Neuder. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1 matin, Dimitri Pavlenko.
Bon réveil avec Europe 1 au programme ce matin.
Bienvenue et bonjour Gérard Larcher.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Et merci de votre présence.
C'est le son qui a marqué l'actualité cette nuit. Au moins 3 explosions comme celle-ci entendues dans le centre de l'Iran.
La question de l'autorité est posée depuis si longtemps qu'il est largement temps de passer des intentions aux actes.
Les faits, c'est quoi? C'est une jeune fille qui ment, qui dit qu'elle a été agressée, qu'elle a été violentée par un enseignant, donc clairement qui lui met une cible dans le dos.
La violence, la faute à qui? Aux parents, oui, débordés ou qui laissent faire.
2 387 000 à écouter Europe 1 tous les jours. Merci, encore merci de votre fidélité. À tout à l'heure, 7h-9h sur Europe 1.
Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accordiaque, voir fr.renew.auto. Au quotidien, prenez les transports en commun. Europe 1.
7h-20 sur Europe 1 ce jeudi 25 avril. Merci d'avoir choisi Europe 1. Bonjour et bonjour Dimitri Pavlenko.
Bonjour Alexandre, bonjour Ambine.
Bonjour.
Bonjour chers auditeurs.
À la une d'Europe 1 matin, Dimitri, à partir de 7h.
On va parler d'Emmanuel Macron, l'Européen. Il va prononcer ce matin son deuxième grand discours à la Sorbonne. Alors, il y a une forme d'auto-célébration dans le fait de remonter à la même tribune 7 ans après. Vous savez, pour son camp, Emmanuel Macron, c'est le grand Européen de son temps. C'est celui qui a changé l'atmosphère sur le continent avec les achats en commun de vaccins, les emprunts communs, l'Europe puissance, sa souveraineté européenne, etc. Bon, c'est vrai qu'il a musclé les éléments de langage, Emmanuel Macron. Il y a une chose, en revanche, qu'il dit rarement, c'est le fond du projet européen, c'est-à-dire le fédéralisme. Vous savez, au moment du Covid, il y a eu un enthousiasme des fédéralistes qui parlaient de moments hamiltoniens. Ça y est, on met les choses en commun, les dettes, le Covid, etc. Bon, c'est un peu retombé. La mise en commun, ça passe maintenant un peu auprès des peuples pour de la dépossession, de la captation de souveraineté. Alors, il n'y a pas de haine de l'Europe en France. En tout cas, je ne la détecte pas. Je pense que ce serait excessif de le dire. En revanche, l'UE, ça ne fait pas rêver les Français. C'est ennuyeux, l'Europe. Mais il y a une peur de ce qui se passera en cas de rupture. Et c'est sans doute comme cela qu'il faut interpréter le fait que le 9 juin, sans doute le parti qui arrivera en tête sera sans doute le plus sévère avec l'Europe, c'est-à-dire le Rassemblement National. Que va dire de cela Emmanuel Macron tout à l'heure? On va en parler sur Europe 1 ce matin.
À tout à l'heure, Dimitri Pavlenko.
L'invité éco avec Banque Populaire, engagé aux côtés de ceux qui entreprennent.
Europe 1, bonjour, 5h-7h, Alexandre Lemaire, Omblin Roche.
Europe 1, il est 6h40.
Vous avez probablement déjà eu une boîte de médicaments Biogarant entre les mains. Biogarant, filiale du laboratoire Servier, c'est notre géant français des médicaments génériques. Or, il se pourrait bien que Biogarant passe bientôt sous pavillon étranger. Qu'est-ce que cela signifie pour notre industrie pharmaceutique? Et puis, les pénuries en pharmacie vont-elles encore se multiplier?
Votre invité sur Europe 1, Alexandre, il s'agit de Yannick Neuder, député LR de l'Isère, vice-président de la Commission des affaires sociales à l'Assemblée.
Bonjour Yannick Neuder.
Bonjour.
Vous avez adressé au début de la semaine une lettre à Emmanuel Macron. Pour quelle raison vous souhaitez mettre en garde le chef de l'État sur les risques que représenterait cette vente de Biogarant à l'étranger ?
Ben oui, bien sûr, risque également surtout pour les patients, hein, puisque je rappelle que là on parle quand même de plus de 30% des génériques en France, donc c'est pour beaucoup de patients les médicaments du quotidien qui sont en fait menacés de ne plus être disponibles avec un certain niveau de souveraineté au niveau français. Et puis c'est aussi un souci industriel, puisque entre les salariés directs, les sous-traitants, c'est plus de 8000 salariés qui sont menacés. Donc je crois qu'il y a un vrai enjeu de souveraineté nationale, de souveraineté sanitaire. C'est un des grands enjeux et un grand enseignement de la crise Covid, c'est que la France doit avoir un certain niveau de souveraineté pour produire ses médicaments. Et puis doit surtout revoir sa doctrine en la matière, puisqu'on est le pays qui paye le moins cher ses médicaments.
Il faut rappeler ce que représente Biogarant, hein, ce que pèse ce laboratoire. Vous l'avez dit vous-même il y a un instant, c'est un tiers de la production française de médicaments génériques. On ne parle pas de n'importe quel labo, c'est l'un des fleurons de notre industrie pharmaceutique.
Ben, c'est quand même dramatique de voir que ces laboratoires, notamment une des qui sont installés en France, soient menacés et puissent vendre notamment à l'Inde ou à la Chine. On a quand même déjà 40% des médicaments de l'Union française, de l'Union européenne, qui proviennent des pays tiers comme la Chine ou l'Inde. 80% des principes actifs y sont en général fabriqués. Donc il faut qu'on garde cette souveraineté, ce savoir-faire français. Mais pour garder ce savoir-faire industriel, on l'a su le faire, puisque par exemple dans ma circonscription en Isère, à Roussillon, on va relocaliser 60% de la production de paracétamol et des besoins européens. Eh bien il faut aussi mettre toute une doctrine en place. Et actuellement on a une vision beaucoup trop comptable, financière du médicament, puisqu'en fait, c'est dans le cadre du projet de loi de finances de la Sécurité sociale, hein, le fameux PLFSS,
oui,
où effectivement est établi le prix du médicament. Et souvent, le médicament, vu qu'on n'a pas de stratégie à long terme en santé en France, du fait de l'absence d'une loi pluriannuelle, eh bien en fait, on adapte le prix du médicament pour, entre guillemets, rentrer dans les clous budgétaires sans avoir aucune prise de conscience et sans évaluer les conséquences économiques, industrielles, de la viabilité de la filière, oui, et surtout de l'intérêt du patient.
Puisque vous parlez du prix du médicament, Yannick Neuder, ces menaces de délocalisation de ce labo pharmaceutique dans notre industrie, est-ce qu'elles ne sont pas aussi le fait du prix des médicaments trop faible par rapport à nos voisins européens peut-être ?
Par exemple, si on regarde par rapport à l'Espagne, les prix en Espagne sont 30% plus élevés, oui, qu'en France, et c'est à peu près identique en Allemagne. Donc on voit bien que finalement, faute de réformes structurelles, de vision globale de la santé en France, en fait on fait une gestion comptable de la santé qui au final se fait au détriment des patients, naturellement, avec toutes les pénuries que l'on constate. Et puis surtout, on déconstruit les filières. Je crois qu'Emmanuel Macron avait annoncé en 2023 un grand plan de réindustrialisation. Ben, je crois que la première des réindustrialisations, c'est d'éviter les délocalisations et surtout dans les différents repreneurs potentiels, on a aussi des entreprises comme Bentalion en région Auvergne-Rhône-Alpes qui sont intéressées de reprendre Biogarant. Donc je crois que les régions font beaucoup. Moi, je suis élu régional aux côtés de Laurent Wauquiez. On fait beaucoup pour la souveraineté économique, pour les relocalisations. 50% des relocalisations industrielles en France se font en région Auvergne-Rhône-Alpes. Les régions donc peuvent beaucoup puisque leur champ de compétences. Mais attention que les filières restent viables. Et qu'ils puissent avoir un prix.
Bentalion sur les rangs, hein, Yannick Neuder, en effet, pour Biogarant. Est-ce que là, l'État a les outils pour jouer un rôle actif dans cette affaire, empêcher, par exemple, une vente à des capitaux étrangers ?
Le code monétaire et financier permet à l'État français effectivement de préserver la souveraineté sanitaire du pays en bloquant effectivement ces ventes. D'ailleurs, dans ce courrier que j'ai co-signé avec Éric Ciotti, nous, bien entendu, nous demandons justement au président de la République et au ministre Lescure justement d'utiliser tous les moyens possibles pour garder le contrôle de notre filière du médicament, puisque comme je vous le disais, si malgré les régions locales, on le fait beaucoup en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a quand même toute la constitution de la filière et du détermination du prix, et ce prix est fait par le projet de loi de finances de la sécurité sociale, et ça montre bien que nous n'avons pas de vision stratégique puisque finalement nous faisons uniquement une gestion comptable du prix des médicaments pour adapter un budget, alors qu'il faudrait avoir une vision stratégique pour ne pas désorganiser la filière, ne pas concourir à sa perte et à sa délocalisation et puis surtout prendre en compte l'intérêt du patient qui
Yannick
doit
Neuder.
Pouvoir trouver 30% de ses médicaments.
Vous êtes également médecin, cardiologue, vos patients doivent vous le dire, hein, les pénuries en pharmacie, on est obligé d'y penser, puisque vous nous disiez que Biogarant, c'est un tiers de la production de médicaments génériques. Est-ce que une délocalisation aggraverait encore ce phénomène des rayons vides en pharmacie ?
Bien sûr que ça aggraverait, ça permettrait de perdre une fois de plus cette souveraineté, et puis surtout n'oublions pas que c'est un sujet qui a déjà été longuement évoqué au Parlement. Nous avions eu une réponse avec la mission Borne. Elisabeth Borne en 2023 avait effectivement lancé sa mission. Ben maintenant il faut aller plus loin et il faut naturellement réformer l'environnement normatif fiscal de notre pays pour permettre l'attractivité de ces laboratoires. Là on envoie un très mauvais signal en Europe et d'après et d'une façon générale au monde sur l'intérêt de la France pour l'industrie pharmaceutique.
Pour l'industrie pharmaceutique.
Et je crois que des projets pharmaceutiques maintenant se détournent de la France pour s'installer dans d'autres pays européens uniquement par cette absence de vision stratégique sur la filière santé.
Merci Yannick Neuder, député Les Républicains de l'Isère, vice-président de la commission des affaires sociales à l'Assemblée. I'm
free. C'était l'invité éco avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, partenaire premium de Paris 2024.
Europe 1, il est 6h48. Vous écoutez Europe 1, bonjour, bon réveil, les initiatives positives.
Bonjour Jean Z.
Bonjour Alexandre, bonjour Ambine.
Bonjour.
Ce matin, avec vous, on va restaurer les bancs de corail. Vous allez nous l'expliquer.
Et pourquoi pas.
Mais
pourquoi
oui, pas. Allez, on va s'y mettre.
Et puis le jeudi, c'est parfait. Hein. Ça prépare le week-end, on pense à ses couleurs, on pense à la mer. Ça fait du bien. L'entreprise dont je vous parle ce matin s'appelle Corail, K-O-R-A-I. On ment pas sur le titre. Hein. Corail qui se base sur une situation dont vous avez sûrement entendu parler. Les récifs coralliens sont en danger. Hein. Sur les côtes africaines, par exemple, bordées par l'océan Indien. Ce serait pas moins de 12 000 km² de récifs coralliens qui seraient menacés de disparition totale d'ici 2070. Alors menacés par quoi ? La pêche, le tourisme, les tempêtes, la pollution des eaux et la hausse des températures. Et pourtant, c'est tout le paradoxe. Les projets de restauration de ce corail ne sont pas légion. Ces aires marines sont peu protégées et d'ailleurs les populations ne sont pas sensibilisées sur place à la question. Et c'est ce qui a poussé Jemila Donti, jeune diplômée de l'ESSEC, à se lancer dans la création d'une entreprise Corail, donc il y a 2 ans à Lille. Alors sans vouloir vexer nos auditeurs du Nord, hein, à Lille, on est loin des coraux, mais ça n'empêche pas Jemila Donti d'avoir un modèle en tête, celui de la nurserie de coraux.
La nurserie de coraux, alors il faut nous expliquer.
Oui. Alors, enlevez-vous de la tête la nounou, les couches, les coraux, la table allongée, non, c'est pas ça. Ces nurseries sont des espaces sous-marins où les fragments de coraux abîmés sont remis d'aplomb. Alors tout démarre par un nettoyage des fonds marins pour retirer les déchets et autres outils de pêche comme les filets. Alors l'outil nécessaire à ce nettoyage, ça n'utilise pas du tout l'intelligence artificielle, c'est une bonne vieille brosse à dents, histoire.
Ah oui, de... tout simplement.
Et tout simplement. Faut pas endommager davantage l'écosystème, donc on y va doucement, on prend la brosse à dents. Les coraux en bon état sont transplantés en milieu naturel et les coraux malades sont déplacés en nurserie sous-marine pour retrouver des couleurs.
Bien, ne jamais sous-estimer le pouvoir de la brosse à dents.
Exactement.
Et puisque vous parlez de couleurs, Cora, il y a déjà la sienne. Hein.
Oui, à Madagascar, une nurserie avec des premiers coraux qui ont été bouturés en avril dernier, avril 2023. La croissance est bonne, la sélection des coraux se fait sur la résistance en fait, au réchauffement climatique, condition sine qua non à cette survie.
Bon, quel est le modèle économique de corail?
Son idée à Jemila Donti, dont les parents exploitaient une ferme de coraux, hein, ce qui lui a sans doute donné la puce à l'oreille, son idée, c'est d'impliquer le secteur privé dans cette course pour la survie du corail. Elle leur propose à ces entreprises de réduire leur crédit carbone contre la création d'une biodiversité sous-marine. C'est un système de bonus-malus pour compenser leurs émissions de gaz à effet de serre. Eh bien, les entreprises dépensent des crédits qu'elles échangent avec des entreprises plus vertueuses comme Corail pour compenser. Le modèle économique prend forme. Ils ont 3 salariés, 300 000 euros de chiffre d'affaires pour 2024, c'est pas mal. Donc Corail qui souhaite dupliquer son modèle de nurserie sur les côtes du Mozambique, de la Réunion et du Kenya.
Merci Jean Z, les initiatives positives sur Europe 1. À demain.
À demain.
C'était Initiative Positive avec Generali PME Enterprise, les trophées qui valorisent les entreprises responsables.
Europe 1 bonjour, 5h, 7h,
Alexandre Lemaire, Omblin Roche.
Bienvenue à tous sur Europe 1, 7h moins 10, le journal permanent, Fanny Marceau.
Le bal des avions au ralenti aujourd'hui malgré la levée du préavis de grève du principal syndicat des contrôleurs aériens. L'accord avec la Direction Générale de l'Aviation Civile est intervenu trop tard. Conséquence, 75% d'annulation à Orly, 55% à Roissy et des aéroports régionaux impactés. L'exploitation de la GPA, la gestation pour autrui, criminalisée par le Parlement européen, il l'inclut désormais dans la liste des traite d'êtres humains, au même titre que l'esclavage, le mariage forcé ou l'adoption illégale. Des sanctions vont être prévues pour ceux qui obligent les femmes à être mères porteuses. Les pays européens ont 2 ans pour mettre en œuvre cette directive européenne. 3 Soudanais de 19 et 22 ans interpellés au Royaume-Uni, suspectés d'être impliqués dans la mort de 5 migrants, dont un enfant mardi lors d'une traversée de la Manche. Les Britanniques, qui vont désormais renvoyer les clandestins vers le Rwanda. Une telle mesure devrait-elle voir le jour en France? Oui, pour 67% des Français, selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD. Et puis le football, le PSG va attendre au moins samedi pour célébrer sa victoire de la Ligue 1. Hier soir, les Parisiens ont bien battu Lorient 4-1, mais leurs dauphins monégasques l'ont emporté sur Lille 1-0. Marseille s'en sort avec un match nul face à Nice de partout.
Merci Fanny Marceau.
Bon début de matinée. Dans un instant, Alexandre, la revue de presse internationale avec les correspondants.
Nous serons au Liban. La presse libanaise s'intéresse au succès de l'armée israélienne dans sa lutte contre le Hezbollah. La moitié des combattants au Liban Sud auraient été éliminés.
Europe 1.
Et si vous aviez l'occasion de rouler en première classe au prix de la seconde? DS Automobile présente le surclassement en DS7 Crossback d'occasion. Car si ce n'est pas la destination qui compte, mais bien le voyage, pourquoi vous contenter de bien quand vous pourriez avoir mieux? Jusqu'au 30 avril, vivez une expérience de conduite premium à bord d'un DS7 Crossback E-Tense hybride rechargeable d'occasion à partir de 390€ par mois. Surclassez-vous avec DS Certified. Voir conditions sur dscertified.fr. Pensez à covoiturer.
Bien, j'ai parcouru votre CV, c'est très impressionnant. 12 ans d'expérience dans de grands groupes, comme dans une PME. Vous êtes expert en comptabilité, marketing, sécurité informatique, ressources humaines. Vous parlez anglais, chinois, hindi. Vous pouvez commencer quand?
Désolé, le mouton à 5 pattes n'existe pas. Mais heureusement, sur APEC.fr, vous trouverez des solutions et de l'aide pour recruter le candidat qui correspond à votre TPE-PME. Rendez-vous sur APEC.fr, c'est gratuit. APEC, donnez de l'élan à votre avenir.
À tous ceux qui disent « À table !» juste avant que le repas soit prêt. À ceux qui mettent les assiettes, comme ça fera venir les autres.
« À table !»
À ceux qui commencent à servir, parce que de toute façon, il faut tout faire soi-même dans cette maison.
« À table !»
Et à ceux qui finissent par couper le Wi-Fi.
« À table !»
Jusqu'à samedi, Intermarché propose la côte de bœuf Origine France à seulement 14,90€ le kilo.
« Ouais, ça va, c'est bon, j'arrive. »
Intermarché, tous unis contre la vie chère. Viande bovine, côte 3 étoiles à griller.
Nous devons aider le continent africain.
To live with us, the European dream.
Good friend of Taiwan.
Europe 1, bonjour.
Europe 1, il est 7h05.
La revue de presse internationale, nous partons au Liban. Bonjour Inès Gilles.
Bonjour.
Vous êtes à Beyrouth pour Europe 1. Beyrouth, où les médias suivent de près, bien sûr, la guerre entre Israël et le Hamas. De quoi parle la presse libanaise ce matin?
Eh bien, du coup, porté par Israël au Hezbollah libanais. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, déclare que la moitié des combattants du Hezbollah au Liban Sud ont été éliminés. Selon lui, l'autre moitié se cache et abandonne le Liban Sud. C'est le quotidien L'Orient Le Jour qui rapporte ses propos. Ces derniers jours, les forces israéliennes mènent une action offensive contre le sud du Liban, rapporte ici Beyrouth. Ce média, plutôt opposé au Hezbollah, affirme que les affrontements entre la milice chiite et l'armée israélienne continuent de s'intensifier, faisant craindre une escalade. Le média du Hezbollah, Al-Manar, cherche de son côté à présenter le groupe chiite en position de force. Il affirme que des dizaines de missiles ont été tirés sur des positions israéliennes en réponse, selon lui, au crime de Hanin, durant lequel l'armée israélienne a visé un village libanais et tué deux civils, une femme et un enfant.
Nous sommes maintenant en Italie avec vous, Antonino Gallofaro, à Rome pour Europe 1. Qu'est-ce qui fait la une des journaux italiens ?
Cette polémique de censure à la télévision publique, le monologue antifasciste que devait lire samedi soir l'écrivain Antonio Scurati, a été bloqué 24 heures avant le direct, écrit le Sole 24 heures, et résultat, ajoute le journal, le texte est devenu viral, il sera lu en public un peu partout dans le pays, aujourd'hui, jour anniversaire de la libération du régime fasciste et de l'occupation nazie. Selon l'écrivain, cité par le quotidien Avvenire, la décision de cette annulation est due à des motivations éditoriales, l'opposition s'en prend donc au premier actionnaire de la RAI, le gouvernement. Mais qu'affirme Antonio Scurati pour mériter cette censure ? Il poste, rappelle que le monologue définit Fratelli d'Italia, le parti de la première ministre, comme groupe post-fasciste et l'accuse de vouloir réécrire l'histoire sans reconnaître la résistance et l'antifascisme.
On retrouve enfin au Brésil notre correspondant Jean-Claude Gérez. Alors de quoi parle la presse brésilienne ce jeudi ?
De l'intérêt croissant d'organisations criminelles pour le trafic des pierres des vésicules biliaires de bœufs et de vaches. Le calcul biliaire bovin, appelé pierre de bœuf, est rare et précieux, explique le site Géon, et vaut jusqu'à 3 fois le prix du gramme d'or. Ce joyau est utilisé dans la médecine traditionnelle chinoise, rappelle Métropole, notamment pour les accidents vasculaires cérébraux et les maladies cardiaques. Des centaines de bœufs ont été massacrés en 2023 au Brésil, souligne Canal Rural, car trouver des calculs biliaires bovins, généralement présents chez les bêtes les plus âgées, est un processus laborieux et qui demande de la chance. En moyenne, indique au Globo, 200 000 têtes de bétail doivent être en effet abattues pour essayer d'obtenir 1 kilo de pierre de bœuf.
Merci Jean-Claude Gérez, c'était la revue de presse internationale sur Europe 1.
La revue de presse internationale vous a été présentée par Valtus, leader européen du management de transition. Déjà plus de 3500 missions dans 50 pays.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Europe 1, il est 6h57.
Dimitri Pavlenko est avec vous. Bonjour Dimitri.
Bonjour Alexandre Lemaire, bonjour Bine Roche, bonjour Anissa Dadi.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Bonjour, bienvenue chers auditeurs. 11h ce matin, le grand oral d'Emmanuel Macron à la Sorbonne sur le thème de l'Europe puissance, alors thème qu'il a préempté depuis ses débuts à l'Elysée. Est-ce qu'il parviendra à faire oublier le chef de l'État l'Europe qui agace, vous savez, l'Europe carcan, l'Europe dogmatique, celle de la suradministration et de la naïveté, prise de parole très électorale aussi, à 6 semaines des élections européennes. Est-ce donc le chef de l'État ou bien le directeur de campagne de son camp qui va prendre la parole ? On va en parler à 8h10 avec l'invité de la grande interview Europe 1 CNews, le député socialiste de l'Essonne, Jérôme Guedj, sera tout à l'heure l'invité de Sonia Mabrouk. L'actualité marquée aussi ce matin par l'arrestation d'un ado de 16 ans soupçonné de vouloir commettre un attentat pendant les Jeux Olympiques. Non mais 16 ans, rendez-vous compte. Tandis qu'à Antibes, un autre ado lui préparait une tuerie de masse dans un lycée. On va en parler. Avec nous également ce matin, tout à l'heure, dans quelques instants, à 7h10, on parlera de la GPA avec Olivia Morel. Elle est la porte-parole de la déclaration de Casablanca, la déclaration qui vise à l'abolition de la GPA, la gestation pour autrui. Alors Olivia Morel sait de quoi elle parle puisqu'elle est née de GPA. Or, il se trouve que le Parlement européen a adopté hier une directive qui va s'imposer à tous les États membres et qui classe la GPA dans la catégorie des actes relevant de la traite des êtres humains. On va en parler. On verra aussi ce matin que le café est à la mode sur les campus de Columbia à New York jusqu'à Sciences Po Paris. Il y a des tentes ce matin sur les pelouses de Sciences Po. On va vous raconter ça. Voilà pour le programme. Alexandre, Ombline, on vous souhaite un bon repos. On se retrouve demain matin, 5h pour Europe 1. Bonjour. Place à la météo. Anissa Haddadi, bien de la pluie pour ce jeudi. J'ajoute aussi du froid.
Oui, alors un petit peu moins de froid. C'est-à-dire qu'on n'a plus de valeur négative. C'est le redoux qui est en train de s'installer. Et d'ailleurs, on va bien le sentir, le redoux, à partir de ce week-end. Mais attention, qui dit de redoux ce week-end dit grosse pluie et orage. Donc on va surveiller de près ce qui va se passer dans les prochains jours parce qu'il devrait beaucoup pleuvoir. Donc aujourd'hui, on a 0 degré à Charleville-Mézières, Dijon et Besançon, 2 degrés à Caen et Grenoble, 6 à Paris, 9 degrés pour Marseille et La Rochelle et 12 à Bastia cet après-midi. Des températures, ça fait longtemps que ce n'était pas arrivé, toutes au-dessus des 10 degrés, mais en dessous des 20. 10 à Aurillac et à Boulogne-sur-Mer, 10 à Belfort, 11 à Nancy et Strasbourg, 14 degrés à Paris, Rennes, La Rochelle et Quimper, 15 à Nantes, 18 degrés à Perpignan et Montpellier et 19 à Nîmes. Dans le ciel, c'est pas mal perturbé. On a pas mal de pluie et des averses fréquentes sur tout le grand quart sud-ouest, donc des Pyrénées jusqu'à l'ouest.